Vous pouvez, ben d'accord, mais c'est formidable. Merci beaucoup d'être venu. Je sais que peut-être un jour où il fait si beau, vous auriez pu même faire d'autres projets, d'avoir d'autres choses en tête à faire. Donc je vous remercie d'être venu parmi nous. Ça nous fait toujours plaisir de pouvoir partager notre travail. C'est une activité de partage sur ce livre et sur la philosophie que ce livre décrit. C'est une partage que nous essayons de faire depuis plus d'un an maintenant. C'est quelque chose qui nous occupe depuis plus de 20 ans d'une façon ou d'une autre. J'avais déterminé il y a déjà 2-3 ans qu'il fallait que je prenne quelques petits pas de plus dans ma passion pour pouvoir au moins donner aux autres une opportunité de voir si eux aussi ils résonnent d'une façon pareille avec ça. Donc il y a un an, on a commencé à en parler à Sarlat. C'est notre grande petite ville ou petite grande ville la plus proche. On est dans le Lot, mais le nord du Lot, l'autre côté du Gourdon. Et ma foi, ça a commencé à faire un petit chemin, c'est assez sympa. Nous faisons des conférences ou des groupes de rencontres là-bas 2 fois par mois, avec de temps en temps un stage. Et puis nous verrons, on n'a pas trop planifié, on ne planifie pas trop, on verra vraiment où ça s'en mène. Il y a des enseignants, entre guillemets, ou des gens qui partagent sur ce travail un petit peu partout dans le monde, particulièrement dans le monde anglophone, parce que le livre vient des États-Unis. Il y a pas mal de gens déjà là-bas qui s'intéressent à ça. Il y a plus de 2 millions de copies de ce livre vendu dans le monde. Et pas mal de copies d'autres livres écrits sur ce livre, aussi vendus. Certains qui ont même atteint... un auteur sur le cours qui s'appelle Marianne Williamson qui a eu ses livres sur la liste des best-sellers du New York Times 6 fois, je crois. Donc le livre est assez connu à l'étranger, relativement méconnu en France encore. Voilà, ça nous donne la petite opportunité pour en parler à notre niveau. Vous vous êtes posé peut-être la question déjà ce que c'est. Donc tout d'abord, tout simplement, c'est un livre. C'est celui-là, Un cours en miracle. Je vais juste marquer cette page-là. C'est un livre assez imposant, c'est vrai, de plus de 1200 pages. C'est divisé en 3 parties, une partie texte, une partie leçon, livre d'exercice, et une partie manuel pour les enseignants à la fin. À savoir qu'un enseignant, c'est simplement quelqu'un qui s'intéresse à ce sujet et qui a envie de le partager, c'est tout. Ou de les vivre pour lui-même. Mais même avant de d'entrer dans le vif de ce que c'est, ce que ça dit, ce que ça peut faire pour nous, je voulais vous lire un extrait. Parce que le langage déjà en dit quelque chose. On dit langue sur la nature de l'œuvre. Ça utilise un langage un peu spécial. Ça utilise des symboles que vous avez sûrement entendu parler. Parce que c'est des symboles chrétiens. Mais retravaillé ou redéfini pour donner un autre sens complètement différent du sens habituel qu'on entend souvent, au moins dans la culture française, c'est sûr. Donc voilà, sans dire un mot de plus, je vous lirai quelques paragraphes là. Écoute, tu saisis peut-être comme une allusion à un état ancien, pas tout à fait oublié, vague peut-être, mais aussi étrangement familier, comme une chanson dont le nom est depuis longtemps oublié et les circonstances dans lesquelles tu l'as entendue complètement effacées de ta mémoire. Ce n'est pas tout le chant qui t'est resté, mais seulement un petit brin de mélodie qui ne se rattache ni à une personne, ni à un lieu, ni à rien de particulier. Mais cette petite partie suffit pour que tu te souviennes combien ce chant était beau, comme le cadre dans lequel tu l'as entendu était merveilleux, et combien tu aimais ceux qui étaient là et l'écoutaient avec toi. Les notes ne sont rien. pourtant tu les as gardés en toi, pas pour elles-mêmes, mais comme le doux souvenir de ce qui te ferait pleurer si tu te souvenais combien cela t'était cher. Tu pourrais te souvenir, pourtant tu as peur, croyant que tu perdrais le monde que tu as appris depuis. Et pourtant, tu sais qu'il n'y a rien dans le monde que tu as appris qui te soit même moitié moins cher que cela. Écoute et vois si tu te souviens d'un chant ancien que tu connaissais il y a si longtemps et qui t'était plus cher que toutes les mélodies que tu t'es enseigné à chérir depuis. Au-delà du corps, par-delà le soleil et les étoiles, passé tout ce que tu vois est pourtant vaguement familier, il est un arc de lumière dorée qui s'étire devant toi en un grand cercle resplendissant. Et tout le cercle se remplit de lumière sous tes yeux. Les bords du cercle disparaissent, et ce qui est à l'intérieur n'est plus du tout contenu. La lumière s'étend et recouvre tout, allant jusqu'à l'infini et brillant à jamais, sans rupture ni limite nulle part. À l'intérieur, tout est joint en parfaite continuité. Il n'est pas possible non plus d'imaginer qu'il y pourrait y avoir quoi que ce soit à l'extérieur, car nulle part cette lumière n'est pas. Telle est la vision du Fils de Dieu, et tu le connais bien. Telle est la vue de celui qui connaît son Père. Telle est la mémoire de ce que tu es, une partie de cela avec tout cela en dedans et joint au tout aussi sûrement que tout est joint en toi. Accepte la vision qui peut te montrer cela et non le corps. Tu connais ce chant ancien et tu le connais bien. Rien ne te sera jamais aussi cher que cet ancien hymne d'amour que le Fils de Dieu chante encore à son Père. Voilà, juste pour vous donner une petite idée du langage lyrique, symbolique, travaillé, poétique, plein de sens d'un côté et plein d'images de l'autre, sur lequel est bâti dans quelle forme est écrit ces 1200 pages. Il y a des passages plus factuels qui partagent une information quasi psychologique dans les termes utilisés, d'autres passages qui chantent aussi joliment que celui-là et qui nous font penser vraiment de la poésie plus qu'autre chose. Donc, c'est un mélange étrange de style et d'information. Donc, pour commencer à vous dire un petit peu plus, c'est un livre de philosophie, dans le sens qu'il partage avec nous une vision de l'existence, une vision du monde, une vision de la création, et notre place dedans. En tant qu'une philosophie, il est vraiment fascinant, parce que ça nous présente une image une idée, une image de ce monde complètement différente, tellement différente de ce que nous avons, ce avec lequel nous sommes imprégnés de par un côté, de par la société, et de l'autre aussi par les philosophies et des fois même les spiritualités quotidiennes ou celles au moins qu'on connaisse très bien. C'est une spiritualité, ce qui veut dire que cette philosophie a un objectif, c'est de nous rattacher avec notre origine qui considère au-delà de ces corps. Notre vie n'a pas commencé avec ces corps et la vie va certainement pas finir avec ces corps. Nous avons une origine que nous pouvons dire, dans les mots du cours, divine. Et l'objectif de ce livre, c'est de nous rappeler de cette origine et de nous donner les moyens d'y accéder encore, au moins de nous souvenir que nous avons une autre existence. On peut presque les considérer comme une sorte d'existence parallèle à celle-ci. Tant que nous avons l'impression de vivre nos vies, nous sommes aussi en train de vivre une autre vie en même temps. Donc, la partie spirituelle de ce livre essaie de nous mettre en contact avec ces autres parties de nous qui existe bel et bien, qui a une propre existence à elle-même, dont l'existence nous ne soupçonnons pas souvent. Ou nous le soupçonnons, justement, comme j'ai fait allusion tout à l'heure dans cette petite extrait, le joli extrait qui s'appelle « Le chant oublié ». Nous le soupçonnons, mais nous ne le touchons pas systématiquement. Ou c'est certainement pas quelque chose qui nous remplit l'esprit d'une façon quotidienne. Donc la partie spirituelle est d'une grande inspiration qui pour ceux qui résonnent, pour ceux qui ressentent le fond du livre, ça peut rester avec vous très longtemps. Et dans mon cas, j'ai eu le livre dans les mains pour la première fois en 1988, donc il m'accompagne déjà depuis un certain temps. Et je trouve encore tous les jours quelque chose de une autre nuance, un autre aspect que je n'ai pas vu auparavant. Il m'apprend encore des choses et c'est parce qu'il peut nous accompagner du niveau là où nous sommes tous les jours, vraiment du plus banal. Il y a des passages qui nous parlent sur ce niveau là, vraiment sur ce niveau très très mondain de nos vies de tous les jours. Et d'autres sections, d'autres parties qui nous parlent comme si nous étions tout en haut de cette échelle mythique qui grimpe vers le ciel, qui nous font rêver, qui nous font planer au-dessus vraiment du contexte des choses d'ici. Donc ça, c'est vraiment magique. Donc un livre de philosophie, de spiritualité et aussi de psychologie. La méthode sur laquelle cette philosophie et spiritualité est basée, c'est une méthode psychologique qui utilise les concepts de la psychologie freudienne principalement. Donc, vous allez, si vous ouvrez le livre, ça va peut-être vous surprendre de tomber sur les termes comme la résistance, le déni, la projection. D'autres concepts comme le gain secondaire sont très fréquemment utilisés, association, identification. C'est-à-dire que pour nous aider à regagner cette vision de l'autre réalité que nous partageons en même temps, le cours se structure autour de ces idées psychologiques, nous offre un outil basé sur la psychologie pour qu'on puisse comprendre d'où viennent certaines choses dans notre psyché, comment ça fonctionne, la dynamique, pour mieux comprendre l'ensemble de cette dynamique de perception que nous utilisons tous les jours, qui nous reflète un monde à l'extérieur de nous, qui a un certain impact sur nous. C'est-à-dire, il décrit notre expérience de la vie. Mais il décrit en utilisant les termes psychologiques. Ça nous aide énormément parce que ça nous donne une vraie structure. Pour la première fois, au moins, je n'ai pas étudié toutes les différentes formes de spiritualité et philosophie qui existent. Mais de celles que je connais, je ne vois pas une autre qui a une méthodologie et une structure de l'esprit aussi pointue, aussi examinée. Et en plus, si vous puisez dans le travail de mon professeur, de mon enseignant, mon maître Kenneth Wapnick, qui était proche collaborateur de l'écrivain, du scribe, c'est certainement la personne qui connaît mieux toutes les différentes nuances de cette œuvre. Et puis, si on suit son enseignement, on apprend davantage sur cette psychologie, sur la structure de la pensée. C'est vraiment un travail d'une vie pour si on a envie de faire ce chemin, on peut passer vraiment un bon moment de sa vie avec. On peut le suivre d'une façon simple ou d'une façon plus compliquée. Il y a une façon beaucoup plus simple de le faire, ce que je vais vous présenter aujourd'hui. Et il y a bien sûr une façon plus élaborée, plus nuancée de le faire. Puisqu'il y a différentes façons de le faire, différents niveaux sur lesquels on peut l'étudier, on peut le prendre juste pour ce que ça nous donne. Ça peut nous donner quelque chose déjà sur un niveau très simple, très basique. Si on veut, ça peut nous emmener plus loin. Il est là vraiment comme un outil pour nous prendre, pour nous donner quelque chose là où nous sommes, pour nous offrir un don, un cadeau au niveau où nous sommes, puisque nous sommes tous à un niveau différent. Nous avons nos impératifs, nous avons nos exigences dans la vie, on a du temps, on n'a pas de temps, on a fait déjà un bout de chemin, on a étudié, on n'a pas, entre guillemets, étudié, ça n'a pas d'importance. N'importe qui peut ouvrir à une page quelconque et trouver une idée d'inspiration, une idée, une belle idée qui ouvre une porte. Voilà. Donc pour compléter comme l'introduction, je voulais vous parler un petit peu de ses origines, qui sont un petit peu énigmatiques parce que c'est l'une de ses œuvres qu'on pourrait dire canalisée, c'est ce qu'on dit souvent, sauf que dans le cas de ce livre, c'est plutôt ça a été écrit par une forme plutôt par écoute intérieure. Voilà. Il a été écrit par Dr. Helen Schachman, qui était professeur de psychologie à l'Université de Columbia, rattaché à l'hôpital de l'université à New York City. Et puis, ça remonte en 1965. En 1965, les choses allaient particulièrement mal entre elle et son collègue et son supérieur, son chef de la faculté, docteur Bill Tedford. Non pas simplement ça allait très mal avec lui, ça allait très mal avec tout le monde en général. En l'intérieur du service, entre les différents services, particulièrement entre ce service-là et un autre, le même service d'un autre hôpital avec lequel ils étaient censés travailler étroitement, les choses n'allaient pas du tout sur le plan relationnel. Les gens se chamaillaient plus que ça, c'est quoi l'expression, ils se tiraient des plus que ça se tiraient les pattes, d'accord. Non, il y avait une ambiance humaine et relationnelle particulièrement tendue, on peut dire même destructive. Et donc, ça continuait longtemps, surtout les relations difficiles entre elle et son supérieur, duraient longtemps, voire même 7 ans. Et à un moment, il commençait à se rendre compte que vraiment, ça valait pas la peine de juste continuer comme ça à l'infini. Et un jour, Bill Tedford s'est tourné vers Helen Schachman, et puis après le XIème discussion très tendue, il lui a dit: je pense qu'il va falloir qu'on cherche une autre voie, une autre façon de faire. Et malgré sa disposition naturelle pour être en désaccord avec lui pour tout, elle s'est entendue dire oui, et je t'aiderai. Ce qui est considéré probablement comme le premier miracle de ce livre. Parce que jusqu'à là, c'était une chose quasi impossible. Peu de temps après, elle commence à ressentir un accompagnement, et cette présence commence à articuler les mots dans son esprit. Et les premiers mots qu'il lui dit, c'est: ceci est un court miracle, s'il te plaît, prends note. Donc, toute affolée, elle se demandait vraiment si elle ne subissait pas une forme de psychose. Merci. Ça vient. Et puis, elle a appelé son supérieur, justement, Bill Tedford, pour en parler, pour dire, ben voilà ce qui m'arrive, je n'ai aucune idée ce qui se passe. Et lui, en fait, il avait déjà étudié un petit peu sur les phénomènes paranormal, spirituel, les expériences dites spirituelles, les expériences de l'ordre psychologique et spirituel. Parce que Edgar Cayce, il avait déjà été assez bien connu à cette époque-là. Il avait suivi un petit peu, il était au courant de ce qu'il avait vécu. Et il n'était pas d'accord avec elle par rapport à son propre diagnostic. Et il disait, non, je crois que c'est plutôt d'ordre mystique. Et je pense que ça vaut la peine d'essayer juste de faire ce que la voix te demande de faire. Ils ne le savaient pas à ce moment-là, mais ils étaient embarqués sur toute l'œuvre d'une vie. Et cette période de dictée intérieure a duré 7 ans. Pendant ce temps, elle se rendait au travail, où elle pouvait entendre cette voix à n'importe quel moment de la journée. C'était quasiment comme un magnétophone. Elle pouvait l'arrêter et démarrer quand elle voulait. Quand elle disait oui à l'intérieur, ça commençait et ça prenait exactement là où elle était. Elle avait arrêté avant. Elle avait un carnet dans lequel elle notait tout ce qu'elle entendait. Et puis, elle était encore on peut dire très intimidée, très appréhensive par rapport à ce qu'elle vivait et ce qu'elle notait surtout. Parce qu'elle-même, elle était athée. Elle ne croyait pas en Dieu. Elle avait eu une enfance difficile par rapport à sa formation religieuse. Elle était en désaccord total avec Dieu. Et puis, elle avait décidé de tourner la page sur la religion et la foi. Et puis, ce livre qui commence à être transmis dans une forme particulièrement religieuse et spirituelle et même chrétienne. Heureusement, il y avait Bill Tedford à côté qui a pu constamment l'encourager de continuer. Sinon, c'était évident qu'elle ne l'aurait pas fait. Les notes qu'elle avait fait elle lui donnait le jour d'après et lui, il les tapait à la machine à écrire. C'est comme ça qu'ils ont pu constituer le premier manuscrit. Qui remplissait une histoire de 7 dossiers grands comme ça. À l'époque, tapé à la machine, c'était très espacé, c'est pas comme aujourd'hui. Et puis, c'était rassemblé dans une pile de 7 gros dossiers. Ils étaient encore très hésitants d'en parler avec d'autres personnes. Ils en avaient parlé avec un prêtre qui pensait avoir un esprit très ouvert. Ce prêtre connaissait un jeune diplômé en psychologie qui avait écrit justement sa thèse doctorale sur les expériences. Il était docteur il était diplômé en psychologie. Il avait écrit sa thèse sur les expériences de Sainte-Thérèse d'Avila, sur ses expériences mystiques. Donc ce prêtre, pensant que c'est un docteur en psychologie, mais avec l'esprit très ouvert, voulait le présenter à Bill Tedford et Helen Schachman. Parce qu'il cherchait des gens avec l'esprit justement un peu ouvert, à qui il pouvait commencer à en parler, à partager un peu. Voilà. Cette personne était Kenneth Wapnick, qui est entré dans la scène de cette œuvre à cette époque-là, et qui n'a pas quitté depuis. Il est devenu le plus grand professeur et connaisseur de cette matière. Et ça, c'était en 1972, il a pris connaissance de l'œuvre. En 1973, il commençait à travailler avec Helen Schachman sur la mise en forme de l'œuvre. Parce que ça a été transmis d'un trait, sans division, sans chapitre, sans page, sans sous-chapitre. Donc, il y avait un gros travail à faire pour l'organiser. Ce travail a duré 3 ans et ils ont pu le faire publier en 1975. Voilà. Il a connu un certain succès tout de suite, peut-être parce qu'il sort vraiment de l'ordinaire dans le langage. Un petit mot sur ça. Vous, bien sûr, vous avez accès ici à la version française. Déjà, c'était un énorme travail pour faire la traduction. Et j'apprécie énormément le travail des traducteurs, sachant à quel point le travail a dû être difficile. Ce n'est pas comme traduire ce livre, n'est pas comme traduire un livre ordinaire. Un livre de texte, d'un côté, on peut se permettre... Un livre de texte est relativement est certainement plus facile à traduire parce que les concepts sont, on sait qu'on doit juste bien représenter le concept. Dans une œuvre plus de fiction et plus de poésie, ça pose beaucoup plus de difficultés parce que c'est une certaine ambiance qu'on veut communiquer en même temps. Quand on a les deux en même temps, c'est encore plus compliqué parce qu'on ne peut pas se permettre les écarts du traducteur qui traduit un livre texte, ni les écarts qui vont se permettre un traducteur qui traduit un livre fiction ou de poésie. Parce que le livre devait être consistant et cohérent entre toutes les différentes traductions qui allaient se faire. Il y en a 19 aujourd'hui, pour que les gens puissent correspondre et se comprendre par rapport à chaque phrase. Les phrases devaient contenir à peu près les mêmes mots, mais dans chaque langue. Ce qui a rendu la traduction particulièrement difficile. Donc, d'un côté, si vous le feuilletez, vous constatez un langage un peu obscur ou un peu difficile à saisir. Peut-être d'un côté, c'est dû à ce problème-là. Mais peut-être c'est aussi que, même en anglais, le langage est très travaillé. C'est très lyrique. C'est quasiment shakespearien. L'écrivain ou le scribe Helen Schackman, il était un grand fondu de Shakespeare et aussi de Freud. Donc, ça ne doit pas être une surprise. Ça ne doit pas être une surprise que l'œuvre a été influencée et contient ses courants. Une bonne partie, voire presque deux tiers du livre, est écrit en forme de vers blancs. Ce qui est la forme métrique en pentamètre iambique, surtout pour la partie le livre d'exercice, ce qui est le rythme métrique des œuvres de Shakespeare, ce qui est déjà assez remarquable. Et si vous le lisez en anglais, vous constatez à un certain moment que vous entrez dans un rythme de lecture. On sent qu'il y a une forme, une structure derrière. Ce que malheureusement, bien sûr, en français, vous perdez. Donc, on en parlait justement hier soir avec quelques personnes par rapport à la difficulté de lecture du livre. Et ce que je comprends, déjà en anglais, c'est assez dense et assez difficile, mais nous sommes souvent emportés par cette forme, par ce courant lyrique derrière. Même si on ne comprend pas exactement le sens des concepts, on sent qu'ils communiquent quelque chose et on est emporté par ce mouvement. On prend plaisir juste à le lire dans ce sens-là. Pareil, j'imagine, avec certaines œuvres en français, j'en ai lu, on ne saisit pas forcément absolument tout ce que l'auteur veut nous communiquer, mais on apprécie la beauté du langage. On apprécie autre chose. En anglais, c'est pareil. Mais malheureusement... Oui.
Je trouve très hermétique. Hein.
Oui, oui, oui.
Voire, au bout d'un mois, j'ai arrêté.
Ah oui, oui, oui. Oui.
Et je voudrais le péché, donc ça m'a bloqué.
Oui.
Et je voudrais bien voir ce que tu en dis.
Oui.
Et tu as lu un texte qui était fluide, et j'ai trouvé de la fluidité.
Oui.
Ce qu'on ne trouve pas toujours.
Je n'ai pas choisi par hasard.
Par contre, il y a des moments très puissants, très forts.
Oui.
Mais il faut traverser tout ça.
Ah, oui.
Et le faire seul, c'est bien.
C'est pas facile. C'est même pas une partie du plaisir, on peut dire. Oui. Il faut s'accrocher. C'est un livre, il faut s'y accrocher, justement.
Mais c'est pas aussi pour parler à une partie de nous qui est au-delà du monde.
C'est certainement écrit pour parler à une partie de nous au-delà du mental. Absolument. C'est même destiné à une partie de nous qui est très élevée, bien sûr. Mais ça n'empêche, on peut en tirer quelque chose déjà à n'importe quel niveau. Excusez-moi. Et puis, on va certainement toucher un mot par rapport à ce symbolisme chrétien. Ces termes qui peuvent bloquer. c'est très très important. C'est une raison pour laquelle j'ai envie de faire ce travail, c'est d'essayer d'aider les gens à aller au-delà de ces blocages parce qu'il y a une beauté absolument remarquable derrière. Mais je connais très bien ce genre de blocage. Si je n'ai pas eu l'aide peut-être de mon prof, j'en serais resté là aussi. Mais il suffit juste de quelques petites prises de conscience par rapport à ce langage lourdement symbolique pour pouvoir mettre en contexte correct chaque fois qu'on lit ces mots qui dérangent. Il y en a pas mal. Crucifixion, hein? C'est pas une mince affaire. Expiation, voilà. Donc, j'ai même passé toute une soirée il y a quelques semaines juste à parler de cette question de langage parce que ça peut effectivement être un blocage important. Nous avons fait effectivement une série de maintenant 10 conférences à Sarlat. Sur différents aspects du cours qui sont montés sur notre site et qui sont disponibles à l'écoute ou pour téléchargement en version MP3 gratuitement. Donc c'est juste une base de données pour aider à démarrer et même plus pour comprendre. Il y a six conférences déjà sur les principes, les principes, la structure. Voilà, de la philosophie et les principes de sa méthode. Donc déjà avec ça, ces six conférences, vous êtes bien préparé à ouvrir le livre et dire « Ah, je sais où ça se place. » Parce que c'est écrit dans un langage lyrique, des fois on se dit « Mais qu'est-ce qu'il est en train de dire là ? Et c'est quoi le rapport avec ce qu'il a dit il y a deux chapitres auparavant ?» Connaître la structure aide énormément de sa philosophie parce qu'il y a une vraie structure derrière, aide énormément à dire ah je sais maintenant il parle de ça, il parle de cet endroit là à un autre moment il va parler de quelque chose d'extrêmement banal dans cette vie, un rapport qu'on a avec une autre personne et on sait qu'il est à peu près là maintenant, ce que je vais essayer de faire avec vous tout à l'heure. Voilà pour ce qui est l'origine du livre. Et justement, normalement, quand j'ai fait une introduction, j'enchaîne pour parler de son langage, de cette question-là, parce que c'est écrit d'une façon pour utiliser un langage poétique, chrétien et psychologique. Donc, la poésie, on en a parlé un petit peu, le côté psychologie aussi un petit peu. Et maintenant, pour vous parler quelques minutes de cet aspect-là qui est peut-être nous avons constaté peut-être l'aspect qui dérange le plus en France. Et s'il y a une raison que ça a eu très 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 peu de réussite en France, c'est peut-être pour ça. Ça a eu même plus de succès en Espagne et en Italie. Et on soupçonne, c'est parce que l'Église catholique n'a pas eu forcément le même poids qu'ici en France. En plus, en France, on a eu cette rupture entre l'éducation et l'Église, et il y a pas mal de raisons historiques et culturelles pour lesquelles on va avoir du mal à traverser la barrière du langage pour trouver le sens qu'il veut nous partager derrière. J'ai même eu des gens qui m'ont demandé de changer les mots pour utiliser d'autres mots à la place parce que on n'allait pas pouvoir se parler deux minutes de plus. D'abord, pour commencer, miracle, ça n'a rien à voir avec ce que nous comprenons normalement. Un miracle tel que nous les connaissons aujourd'hui, c'est quelque chose qui se passe dans ce monde ici. Pour le coup, ça n'a aucun sens parce qu'il ne se passe rien de réel dans ce monde ici. Le seul endroit où il se passe des choses réellement, c'est dans notre esprit. C'est là l'endroit de réalité, c'est là l'endroit de pouvoir. Nous. Donc, le miracle, c'est quelque chose entièrement à l'intérieur de l'esprit et c'est tout simplement un tout petit basculement de l'esprit en dehors d'une fixation sur nos besoins par rapport aux besoins de notre personne pour soudain prendre conscience que nous partageons le même besoin avec une autre personne. Et c'est une prise de conscience simplement que nous partageons quelque chose, nous partageons à un certain niveau l'humanité plus que ça, nous partageons le même, nous sommes, faisons partie de la même famille spirituelle. Et d'un clin d'œil, ça enlève à l'intérieur de nous ce sens d'opposition avec une autre personne ou une situation. Ça peut être une maladie, ça peut être même un problème psychologique que j'ai en moi. C'est l'instant où on laisse tomber le sens d'opposition par rapport à quelque chose pour se battre, on prend du recul et on dit non. J'ai envie maintenant de connaître un instant de paix et de tranquillité par rapport à cette situation et ne plus me battre, me mettre en guerrier. Je préfère me joindre dans une fin, dans un intérêt commun, au lieu de continuer à me battre à partir de ma position. Et c'est ça le miracle. C'est juste un petit changement d'esprit qui nous bascule vers notre vraie existence, ce que je vous disais tout à l'heure, notre soi véritable, qui est entièrement spirituel et qui n'est pas le soi qui est fixé entièrement sur moi, ma position, mes opinions, mes besoins, mes exigences, mon histoire et tout le reste. Ça, c'est le miracle. Ce qui est très lié avec le pardon dont nous allons en parler tout à l'heure. Le pardon, c'est le nom de code. Le pardon authentique, c'est le nom de code du processus ou de la méthode dont je vous ai parlé tout à l'heure. Le cours nous offre une méthode qui s'appelle le pardon authentique. Et c'est... bon, il ne faut pas que je me devance trop, sinon ça sera pas très organisé. Donc maintenant, pour les termes peut-être particulièrement chrétiens, nous avons Dieu, Saint-Esprit, Jésus, Fils de Dieu, expiation, et puis péché. Qu'est-ce que nous avons d'autre qui sont utilisés dans le cours? Ça, c'est déjà pas mal. Ça va faire un petit... On va enlever tout le côté... peur et stress et anxiété par rapport à ça. Je vais les mettre dans un contexte quasiment oriental. Père, d'abord, Père, c'est simplement l'amour complètement abstrait, c'est un amour infini, c'est un amour, c'est esprit, c'est pur esprit, ça n'a rien à voir avec ce monde. Quasiment chaque religion, particulièrement les spiritualités orientales, ont tous une idée de cette grande présence qui est la vraie existence derrière toute chose, qui englobe tout, dans une unité parfaite, dans une unité aimante, dans une unité qui n'a pas de fin, et qui est intemporelle et en dehors de ce monde entièrement. Il n'a rien à voir avec le Père de la Bible, le Père et Dieu de la Bible. Donc, essayez de garder en tête ça, même si le cours utilise le mot père d'une façon quasiment comme un grand-papa. Il utilise le terme père en termes de grand-papa aimant, uniquement pour nous aider là où nous sommes, pour avoir une image de quelqu'un d'aimant. C'est tout. C'est purement pour cette région-là. Ce n'est pas pour faire un rapprochement avec la Bible et l'Église. Faut essayer d'être à l'affût. Chaque fois que vous êtes tenté d'avoir un petit peu de stress ou de peur, ça peut être parce que ça vous rappelle de l'Église, ça vous rappelle du catholicisme, de cette position, de cette culture très, très forte qui va tout de suite nous imprégner d'une image de Dieu ou de Père qui juge. Voilà. Qui juge tout de suite culpabilité, moi supérieur, moi Dieu, toi rien de tout, toi même pas mon fils, j'ai un vrai fils, et voilà, tu es les fils adoptés ou je ne sais pas quoi, mais franchement vous comptez pas pour grand chose, sauf si vous priez je ne sais pas combien de fois par jour. Il y a tout un tralala dans nos têtes, on a été imprégné avec de par la société et aussi de par la culture des fois qui nous communique ça. Donc, voilà pour Père. Fils, le Fils de Dieu, c'est nous tous. C'est pas... Le, donc, si le Père est une sorte de, d'esprit qui n'a pas de forme, je vais peut-être commencer à mettre ça d'ailleurs sur le... Merci. Sur le tableau, ça va nous aider déjà à, pour la suite. C'est pratiquement pratique, là. Par contre, on va, oui, on va changer ta place, peut-être. Tu viens de l'autre côté de moi, Pat? Viens là. Non, non, regarde, sauf qu'on a chaud là-bas. C'est ça, c'est là. Qui, si vous avez un peu chaud, peut-être. Ça, non? Ça va? D'accord. C'est là, mais quelle forme on va utiliser pour décrire Dieu? Là, on va commencer à avoir du mal tout de suite. Donc, on va juste... C'est le bon, là?
Oui, mais il va devenir vert.
D'accord.
C'est parce que c'était un noir, j'ai mis une cartouche de vert.
Donc... Non, non, c'est juste que je ne veux pas utiliser le mauvais feutre. Voilà. Il s'efface. Ok, d'accord. Tu me rassures. Dieu entièrement. Non, c'est pour toi. Parce que Dieu entièrement dans l'abstraction, il n'y a pas une forme que, bien sûr, qu'on peut donner à Dieu. Et il occupe un endroit intemporel. Donc, on va dire en dehors du. L'infinitude, c'est ça le mot en français ? L'infinitude intemporelle. On ne va pas utiliser éternel parce que dans éternel, il y a toujours une idée de temps. Donc, en dehors du temps, il n'y a pas de temps à cet endroit-là. On va utiliser d'autres mots qui sont un petit peu qui nous donnent un aspect de spiritualité. Perfection. Qu'est-ce que j'ai écrit? J'en ai. Comme ça, j'ai pas besoin d'utiliser trop de neurones. Si je vais. Ah oui, ça c'est bon. Je vais le déplacer comme ça, ça sera plus facile. Le tableau. Merci. Ok. Là. Désolé, Pat. Donc, pour d'autres termes là, perfection, abstraction parfaite, notre maison, notre origine, paix, amour, on a du mal à imaginer un tel état, une telle condition de perfection et surtout de sécurité. Où rien ne peut se perdre, rien ne peut être perdu, tout est compté, tout est dedans, et tout existe, a toujours existé et existera pour toujours. Un peu difficile à expliquer. Nous retenons tous, nous gardons tous au fond de nous, quelque part, une idée, un début d'idée de ce que ça pourrait dire. Qui sommes-nous dans cette affaire? Nous sommes ça. Ces petits trucs-là, la seule façon de le dire, c'est des extensions de Dieu. Voilà. Parce que l'unité parfaite ne peut pas avoir des parties séparées, par définition. Nous faisons entièrement partie de Dieu, avec la seule différence que nous sommes une extension de Dieu, parfaitement joint avec lui. Et lui, il est notre source. Cette abstraction parfaite est notre source. Nous avons une source. Nous en sommes les extensions. Donc, et le cours appelle ça le Fils de Dieu ou la filialité. Ce n'est pas Jésus qui était le Fils de Dieu, mais nous le sommes tous. Nous allons apprendre tout à l'heure que ce Fils de Dieu inclut, c'est pas simplement les êtres humains et c'est pas simplement le royaume des animaux, c'est absolument chaque chose dans l'univers matériel. L'univers matériel est à l'intérieur de l'esprit du Fils de Dieu. C'est inclus. Je peux effacer donc.
J'avais lu Dieu, il y avait un terme que j'aimais beaucoup, il parlait d'individualisation de l'âme suprême.
On peut utiliser un terme, on va utiliser un terme, on va... C'est qui a utilisé
Donald Walsh.
Donald Walsh, oui. Oui, avec une nuance près, c'est que cette individualisation était une grande erreur de notre part. Et Neil Donald Walsh, il ne va probablement pas dire ça. Que plutôt, comme beaucoup d'autres philosophies, ils disent que nous sommes une expression du divin. Le cours dirait que nous sommes une expression erronée du divin, dans le sens que mais là, c'est vraiment, ça entrait vraiment dans le vif de la structure de sa philosophie, pour voir d'où ça vient cette idée. Ça partage beaucoup en commun avec les gnostiques. Les cathares et les gnostiques, les écrits des gnostiques dans les manuscrits des gospels de Nag Hammadi en Égypte, machin. C'est des écrits des autres pères du premier et deuxième siècle après la mort de Christ, de Jésus. C'était c'est une idée que ce monde était une erreur dans l'esprit du Fils de Dieu. Et c'est plutôt dans ce sens-là que nous allons parler d'individualisation du suprême. C'est une idée très difficile à avaler, donc je ne veux pas le présenter trop vite, on va y arriver doucement. Donc juste pour vous donner un aperçu, on a Dieu, Père, Fils, Saint-Esprit maintenant. Saint-Esprit, c'est la voix qui nous accompagne ici, dans ce monde ici, qui représente qui représente déjà notre face le plus, notre grand soi. C'est la voix qui représente notre grand soi, la voix qui représente Jésus, la voix qui représente Dieu. C'est la voix qui représente, dans les termes du cours, notre esprit juste, qui parle pour notre réalité, qui parle pour la réalité, qui parle pour notre sécurité, qui parle pour la vérité. C'est notre moyen de communication, c'est le souvenir que nous avons gardé avec nous dans l'état de séparation et de fragmentation de ce monde. C'est le téléphone.
Le lien.
Le lien par l'idée de la réalité, qui nous rappelle de la réalité chaque fois, qui nous donne le petit truc. Je suis en conflit avec quelqu'un, c'est pas ça la réalité. Il n'y a aucun vrai conflit ici, parce que ma réalité est totalement en sécurité à chaque instant. Comment je peux penser pour l'instant qu'il y a un vrai conflit ici avec cette personne? En plus, cette personne fait partie de la même famille spirituelle que moi. Et ça c'est le petit lien vers le Saint-Esprit, qui me rappelle de notre origine jointe, notre origine commune.
Donc voilà.
Oui, curieusement, oui, j'ai jamais fait le rapprochement, mais éventuellement, oui, parce que le dharma est quelque chose de très vaste. C'est pas facile de mettre son doigt exactement sur le dharma, mais ça, une idée un petit peu semblable, oui. C'est toujours un rappel de la famille d'enseignement c'est calmant, c'est un effet calmant, effectivement, comme ce souvenir du dharma, c'est calmant dans le même sens que Saint-Esprit. Donc ça nous aide aussi à l'enlever de son contexte chrétien où le Saint-Esprit est tellement attaché aux idées du Dieu biblique. Maintenant on va peut-être attaquer péché et expiation. Péché, c'est formidable, bien sûr, parce que bien sûr, c'est l'idée que nous pouvons faire quelque chose ici dans ce monde qui mérite de la punition. Le cours contient une idée de péché aussi bien que la Bible. Le cours contient une idée aussi de péché originel aussi bien que la Bible. La différence entre les deux philosophies, c'est que la Bible va insister que ce péché est vrai. Et le cours miracle va dire ce péché est faux. Ce péché n'a jamais eu lieu. Donc, pas de raison de punition, de penser en termes de culpabilité, punition, démon, enfer et tout le reste. La Bible prend la position exactement inverse, c'est que ce péché originel était vrai. Nous sommes ces êtres exécrables au fond. Et nous devons nous racheter, nous devons entamer même un processus d'expiation pour nous purifier. Le cours prend une position quasiment opposée, c'est que puisqu'il n'a jamais eu de péché originel, c'est ça le péché originel, ouais, nous n'avons rien à racheter et nous devons maintenant commencer le processus d'arrêter d'insister parce que c'est nous qui insistons sur notre culpabilité. C'est ça le truc, c'est que dans son ensemble, nous allons voir tout de suite d'où ça vient, cette insistance fâcheuse sur notre culpabilité. Il y a une raison pour ça. Ce n'est pas. On ne s'en débarrasse pas si facilement. On s'y accroche avec une ténacité à ce sentiment. Quand je dis culpabilité, il faut penser en termes de la petite voix ou la grande voix à l'intérieur qui dit il y a quelque part un défaut chez moi.
Une faute,
un défaut, c'est quelque chose erroné. Et souvent, ça se traduit par un sentiment, je ne fais pas vraiment assez bien dans cette vie, je n'ai pas fait assez bien, j'aurais pu faire mieux. Le jour que j'arrive à faire, il va falloir que je m'explique à l'idée toujours que je dois rendre les comptes, je dois donner des comptes à quelqu'un. L'idée que à cause de mon enfance j'ai cette blessure, je n'arrive pas à m'en débarrasser, tout ça on peut dire ça, c'est rattaché avec cette idée de faute, de défaut, de quelque chose erroné en moi, et même si le cours et Jésus et le Saint-Esprit sont là pour nous dire 1200 pages il le faut pour nous dire qu'il n'y a absolument rien à vous excuser ou à racheter, à vous expier. Il va nous falloir 20, 30, 40 ans pour l'accepter. Donc, chaque fois que nous lisons le mot péché dans le cours, il faut voir qu'il veut dire qu'il n'y a que nous qui insistons sur ce péché. C'est pas lui. C'est pas parce que lui, il dit le mot péché qu'il veut nous culpabiliser. Il fait tout pour essayer de nous déculpabiliser. D'enlever la notion de punition et de culpabilité de ce terme péché. Il fait tout, il a écrit 1200 pages, pauvre Helen Schachmann, elle a donné une bonne partie de sa vie pour qu'on puisse comprendre ça. Et qu'est-ce que nous faisons chaque fois qu'on voit péché, on ferme le livre, on le jette par la fenêtre, et ben là il est encore en train de me culpabiliser. Ben non, c'est pas du tout ça. Nous culpabilisons très très bien tout seul, sans son aide. Donc péché. D'autres endroits dans le cours, j'adore, ils disent que le péché, c'est un manque de communication. Chaque fois que nous nous gênons avec l'idée de péché, ça veut dire simplement que nous avons oublié notre innocence, notre sainteté. C'est tout. Chaque fois que nous sommes gênés par l'idée de notre défaut, une difficulté en nous, notre culpabilité, l'idée de péché, chaque fois que ça nous gêne, c'est parce que ça nous rappelle d'un mensonge, de quelque chose sur lequel nous nous accrochons fermement, avec ténacité. C'est un mensonge. Donc pour lui, c'est un manque de communication. Tu as raté le message. Chaque fois que tu es gêné par le mot péché, ça veut dire que tu as raté le coup de fil, le message, le SMS divin. Péché, expiation. C'est simplement l'acceptation que le péché n'a pas eu lieu. Donc, il n'y a rien à expier. C'est tout. Qu'est-ce qui peut être plus beau que ça? Il n'y a pas eu de défaut, il n'y a pas eu de problème à l'origine, il n'y a pas eu de blessure, il n'y a pas eu de crime céleste, de crime originel. L'ensemble est juste une grande erreur. Et quand une grande erreur est vue en tant qu'une erreur, ça devient une petite erreur. Sans conséquences, sans difficultés, sans problème, sans casse-tête, sans réparation à faire. Nous devons accepter qu'il n'y a rien à réparer. C'est très très difficile. Toute notre existence, notre identité est basée sur l'idée qu'il y a quelque chose à réparer. Il y a quelque chose à fixer. Il y a la saleté à nettoyer à la maison. Sinon, c'est pas bon. Une maison sale n'est pas bon. Il y a un reflet sur moi. Ma voiture ou je ne sais pas quoi, tout le monde a un concept de propreté, de réparer quelque chose qui n'est pas bon, ou j'ai laissé les bouts traîner sur ma liste de choses à faire pour la semaine dernière, ou je ne sais pas, on se stresse tous pour quelque chose qui n'est pas fait. Si ce n'est pas fait, il va avoir une conséquence. L'origine de cette pensée-là, c'est qu'il y a quelque chose à réparer dans l'existence. Tout n'est pas bien tel que c'est. Or, Jésus et le Saint-Esprit, à travers ce livre et cette voie-là, sont là pour nous dire, aussi bien que peut-être d'autres spiritualités, je dis pas que le cours est le seul à utiliser ces idées et nous partager, nous transmettre ces idées-là, sont là pour nous dire qu'il n'y a rien à réparer, rien ne s'est passé, qu'il va falloir réparer avec cette urgence, avec cette idée que si vous ne faites pas, il va avoir une conséquence terrible. Donc, expiation, ce n'est pas du tout le terme biblique avec lequel nous sommes imprégnés, qu'il y a absolument quelque chose à faire, à réparer. C'est exactement l'inverse, qu'il n'y a rien à réparer, il y a juste un souvenir à se rappeler, qu'il ne s'est rien passé, le grand crime n'a pas eu lieu. Ça aide un petit peu peut-être déjà dans un premier temps. On va aller plus loin avec tout ça.
Et tu parlais de vrai pardon ou faux pardon.
Ah oui. Le pardon, c'est très important. C'est juste un petit peu plus un petit peu plus compliqué à expliquer en deux mots. Simplement, pour me devancer un petit peu, si je suis rempli d'un sentiment de défaut et je n'ai pas envie de le voir en moi, ce qui est le déni, je vais faire, dans le langage freudien, je vais le projeter à l'extérieur. C'est-à-dire, une fois que j'ai un sentiment de quelque chose de saleté, je n'ai pas envie d'en faire face en moi-même. C'est vraiment désagréable. Donc, ce que je vais faire automatiquement, et sans me rendre compte, la projection, c'est automatique, on ne le contrôle pas. On peut par la suite l'observer. Mais il vient automatiquement, je vais voir cette saleté ailleurs. Je vais voir cette saleté dans ma maison. C'est une projection. Je nettoie ma maison, je me sens plus propre. Non, je ne me suis pas nettoyé, j'ai pris ma douche ce matin, ma maison est plus propre. C'est quoi le rapport avec moi-même? Ça, c'est le phénomène de la projection. Quand on l'a fait sur notre personne, c'est plus néfaste. C'est-à-dire, au lieu de juger ma maison, je juge notre personne. Toi, tu es sale. Toi, tu as fait des mauvaises choses. Toi, tu as été méchant. Et donc, ça s'appelle une projection. Je vois une qualité chez lui que j'ai vue chez moi à laquelle je ne voulais pas faire face. Donc, le faux pardon, c'est tu m'as fait une vacherie, mais vraiment vache. Mais parce que je suis tellement spirituel, je suis capable de te le pardonner. Je suis capable de dire que tu es un mécréant. Mais en même temps, je vais passer au-delà cette fois-là, je vais te donner une deuxième chance, espérant que tu ne fais pas une deuxième fois. Je vais même tirer et tracer une ligne dans le sable. Tu restes de l'autre côté, tu as mon approbation. Si tu traverses cette ligne, tu peux être sûr que tu vas encaisser la colère de ma divinité, ma colère divine. Donc, le faux pardon, c'est un peu ça. Il y a eu une transgression. Tu m'as fait mal, c'est-à-dire il y a eu une cause. Toi, tu as dit que tu es allé au magasin, tu n'es pas allé au magasin, tu es allé faire de l'internet encore ou les jeux de vidéo, quelque chose comme ça. Tu m'as menti et tu as fait une chose interdite. Tu as joué à ces jeux violents dans un cybercafé ou quelque chose, je ne sais pas ce qui est les choses. Interdit pour vous. Et donc, il a fait transgression, cause, tu as fait quelque chose, effet, je me suis fâché, il y a eu une conséquence, tu m'as fait mal, tu as blessé ma confiance en toi. Tu as blessé ma foi, ma confiance, tu m'as trahi. Cause et effet. Donc maintenant, j'essaie de mettre une pommade dessus pour dire avec ma baguette magique, c'est pas grave cette fois-là, je restitue ta place, mais fais gaffe parce que tu peux retomber aussitôt. Ça c'est le.
Jeter à l'œil.
Oui, oui, exactement.
En fait, c'est projeter son propre péché sur l'autre.
Toujours. Voilà, c'est projeter exactement, oui. Encore, ceci ne veut pas dire que les autres personnes ne sont pas capables de faire des vraies vacheries des fois, qui sont très inconsidérées, égoïstes et même violentes et méchantes. Ce qui nous concerne, ce qui nous intéresse, nous, c'est notre réaction par rapport à ça. Des fois, absolument, les gens font des choses, il faut les encadrer. Ils ne sont pas dans ce que le cours appelle leur esprit juste, où ils sont rattachés au souvenir de leur grande soi et dans leur position de sagesse. Ils sont dans leur partie immature, entre guillemets, de séparation. Donc, ils vont faire des bêtises. Et des fois, il faut encadrer les gens pour les empêcher de leur faire mal et aussi de faire mal aux gens autour d'eux. Mais on n'a pas besoin de le faire avec le jugement et avec ce sentiment de condamnation, ce qui est toujours la projection. Voilà, quand on fait ça. Donc ça, c'est le faux pardon, le vrai pardon, le pardon authentique, ce que le terme de cours utilise. C'est très nuancé. Ça regarde ce que je considère la blessure que l'autre m'a fait, la même chose, le cause et effet. Il a fait ce qu'il a fait, selon un certain règlement, effectivement, il n'était pas censé le faire, il ne devait pas le faire, pour des raisons très justes. Mais après, je dis, est-ce que ça a eu un vrai effet sur moi? Est-ce que ça m'a blessé? Et c'est là la nuance qui est tellement importante dans le cours. C'est là où on se rappelle de l'expiation, de la définition du péché, de l'ensemble de cette perfection que nous essayons de regagner encore dans notre esprit. C'est de nous souvenir que cet amour parfait et abstrait que nous cherchons à nous en souvenir est toujours présent en nous. Un acte de la part de notre personne qui a une certaine conséquence sur moi, je pense qu'il dérange mon équilibre dans l'amour. C'est-à-dire, je pense qu'il a enlevé mon bien-être, il a enlevé mon amour, il a enlevé la paix céleste en moi. C'est lui qui est responsable, le chauffard sur la route. Je sors le matin, je suis un peu pressé comme tout le monde, arrivé au premier carrefour, quelqu'un ne cède pas le passage. D'accord, je viens sur la droite, il ne cède pas le passage. On a failli avoir un accident important. D'accord, je pense que je suis tout à fait justifié, dans ma tête, l'assassiner de plein de différentes sortes de réflexions et d'insultes, de rabaisser plus bas que la terre. La vraie question pour moi, c'est est-ce que c'est lui vraiment qui est responsable du fait que je ne ressens plus l'amour de Dieu en moi. Et si on fait les exercices dans le cours, on se rapproche de cette présence en nous de Dieu et on commence à le soupçonner sa présence en nous de plus en plus dans les situations même inattendues. Et on se rappelle de plus en plus, ça ne nous quitte jamais. Cet bien-être profond ne nous quitte jamais. C'est une constante dans l'existence. Absolument rien et personne ne peut nous l'enlever. Cette condition de base de l'existence. En conséquence, quand je pense que quelqu'un m'a fait quelque chose, même à me menacer ma propre existence, je n'ai que dans cet instant de vouloir faire un déferlement d'insultes sur lui, que j'attends un petit battement, si je peux, des fois ça arrive longtemps après, des fois ça arrive quelques minutes après, et dire est-ce qu'il m'a enlevé la présence divine de l'amour de Dieu de mon esprit? Est-ce qu'il était vraiment capable de faire ça? En toute honnêteté, on doit dire non. Il est capable de menacer ma vie, il est capable de ma vie physique, pas ma vraie vie. Mais il n'est pas capable d'aller à l'intérieur de moi et couper ce cordon que j'ai avec ma réalité, avec mon grand soi. Ça, c'est le vrai pardon, le pardon authentique. C'est quand je peux le regarder l'autre et je peux constater qu'il n'a rien fait en réalité. C'est le seul vrai pardon, c'est de constater que je pardonne ce qui ne s'est pas passé, ce qui n'est pas arrivé. Chaque fois que je condamne quelqu'un dans un événement quelconque, je suis en train de lui dire, c'est toi qui es responsable du fait que je ne ressens plus cet immense bien-être en moi. Projection. Maintenant, des fois, ça arrive, des vraies vacheries et des vrais actes violents arrivent à l'extérieur, de l'extérieur. Ça, c'est vrai. Mais ce n'est pas vrai que quelqu'un est capable de nous enlever cette cordon, de couper ce cordon et d'enlever cette magnifique présence à l'intérieur de nous. Donc, chaque fois que nous condamnons une autre personne, c'est par erreur. Nous ne sommes pas coupables, ce n'est pas un crime encore, c'est juste erroné. Ils n'ont pas fait ce que nous les accusons d'avoir fait. En dessous de l'accusation de la surface, tu n'as pas cédé le passage, ça c'est vrai. Mais la raison que je suis vraiment en colère, c'est parce que c'est toi qui m'as enlevé la présence de divin de mon Père Céleste.
Nous
nous déchargeons de la responsabilité pour notre propre choix de ne pas nous tourner vers l'amour de Dieu, de ne pas nous souvenir de l'amour de Dieu. Voilà, exactement. Chaque fois que j'ai un problème avec quelqu'un, chaque fois que je l'insulte, chaque fois que j'ai le moindre petit point de frustration ou le petit battement qui dit bon, pourquoi elle me balance ça, pourquoi elle a eu cette réflexion là, mais c'est con, c'est bête. Chaque fois, ça veut dire je ne suis pas dans un état parfaitement tranquille de souvenir de mon origine, sinon je vais aussi me souvenir, je vais aussi savoir pourquoi elle a peut-être dit une bêtise ou fait une bêtise. Je vais savoir tout de suite d'où ça vient. Ça veut dire que chaque fois, j'ai même ce petit instant de frustration, je suis en train de dire encore, tu m'as enlevé, tu es responsable pour le fait que je ne ressens plus, je me décharge de ma responsabilité de l'avoir fait moi-même. Je suis le seul acteur dans ma vie. Je suis la seule personne vraiment responsable pour chaque chose que je ressens à chaque instant de la journée. Personne n'est capable de venir à l'intérieur de moi et bricoler le software, le logiciel de mon système. Et personne ne peut me faire ça.
Ça me fait penser au premier martyr dans les arènes. Comment s'appelait là ?
Daniel ?
Blandine qui était là avec les lions et...
C'est très nuancé.
Elle
a gardé
son intégrité par rapport à la survie. Finalement, ça a changé l'expérience. Au lieu de se faire manger par les lions, les lions ils se sont couchés autour d'elle.
Je ne sais pas si
vous connaissez cette histoire.
Ah, ça, c'est.
Vous connaissez avec Daniel?
C'est pas Blandine, c'est dans nos livres d'histoire. Oui,
Blandine.
Si vous voulez, elle est restée avec sa croyance, en souriant. Elle était au milieu de l'arène pour être mangée avec les lions. Et comme elle est restée avec ce que vous expliquez, là, sa connexion divine,
oui.
Les lions se sont couchés.
C'est une magnifique histoire. Je souhaiterais que ça soit vrai pour nous tous. Qu'on marche, si on va tous ensemble dans les rues de Syrie, je voudrais bien que ça nous arrive, qu'on arrive à apaiser toutes les armées là-bas, mais j'ai craint que ça ne soit peut-être pas forcément le cas aujourd'hui. Le vrai.
C'est vrai qu'on n'en est pas tout à fait.
C'est peut-être ça. C'est peut-être ça.
Non, mais.
C'est une magnifique histoire. On souhaite vraiment que. Il y a toujours une nuance entre ce qui se passe dans l'esprit et ce qu'on appelle entre le forme et le contenu, ou le forme et le fond. C'est-à-dire que. Ça voudrait dire, dans un sens, que si j'arrive à me mettre entièrement dans mon esprit juste, dans une situation de conflit, que ça va apaiser les autres autour de moi.
Mais ça change la réalité.
Ça change ma réalité, oui, de la situation, ça change mon expérience de la situation entièrement. Mais ça ne va pas forcément faire quoi qu'il soit pour les autres. Ça dépend. Les autres vont capter ce que tu fais. Là, c'est sûr. Mais personne ne peut les obliger d'accepter ce que tu offres. C'est très nuancé parce que on est entraîné très, très facilement à dire, tiens, je n'ai qu'à prier, ou je n'ai qu'à méditer selon le cours et plein de choses vont s'arranger et s'organiser autour de moi comme je veux. C'est-à-dire, on utilise encore ce livre comme le secret pour essayer de, comme la visualisation créative, hein, c'est-à-dire pour produire les effets dans ce monde. Ce n'est pas le niveau de guérison sur lequel le cours opère. Si des choses s'arrangent dans vos vies, on sera ravis. Ouais. Mais c'est pas forcément le cas. On ne peut pas obliger la vie autour de nous à accepter ce que nous offrons. Et à la fin, difficile à accepter, on n'a pas besoin non plus. On n'a pas besoin parce que si on revient encore et encore à notre intérieur, à notre expérience, on va toucher cette divinité, cette perfection encore et encore, et on va s'en ficher complètement de ce qui se passe dehors. Mais complètement. Complètement. Les gens vont s'apaiser, les gens restent dans le conflit. On voit, c'est leur jeu qui sont obligés, ils se sentent obligés à continuer pour l'instant, pour leur raison. Les lions s'apaisent, les lions s'apaisent, ou, c'est quoi l'autre possibilité?
Dévore.
Ou me dévore, ça ne me fait rien du tout. Mon expérience est... À un certain moment, en pratiquant, c'est le promesse. Même pas mal. Dans un sens, c'est tout à fait juste. C'est les plus grands sages qui nous laissent ce message. C'est qu'en fait, un certain état de conscience, quand notre attention est retirée de plus en plus vers cet endroit intérieur, cet endroit à l'intérieur n'est pas dans nos corps. Ça nous ramène vers notre esprit, notre vrai esprit, qui n'est pas dans le corps. Et c'est pour ça que ces grands sages sont capables de se faire des opérations sur leur corps et toutes sortes de choses sur le corps. Et ils ne les sentent pas. Leur point d'attention est entièrement dans leur esprit. Donc, qui se font opérer dessus sans anesthésie, qui se font dévorer par les lions, ou ils se font clouer sur un crucifix, ça n'a aucune importance pour eux. Ça nous semble quasiment impossible pour l'instant, parce que nous sommes identifiés à notre corps, avec nos corps. Nous pensons tous tellement fort, mais c'est impossible, je suis mon corps, ça va forcément me faire mal. Parce que nous n'avons pas encore l'habitude de savoir que ce n'est pas moi. C'est juste le corps. C'est tout. Et donc, c'est un long chemin. C'est pas un petit chemin. C'est pas demain que nous allons comprendre que nous ne sommes pas ces choses, ces petits bouts de carbon et d'eau. C'est pas demain que nous allons nous rendre compte pleinement de ça. Mais nous y allons doucement, très progressivement, dans ce sens-là. Et le cours nous propose cette technique du pardon, qui est une merveilleuse technique pour commencer à faire cette désidentification. Et c'est parce que la façon par laquelle je m'identifie le plus... étroitement avec mon corps, c'est quand je me sens blessé. À ce moment-là, quand quelqu'un me fait une vacherie ou quelque chose me fait mal, je suis entièrement associé, identifié avec mon corps, je suis son corps, je dois le défendre, je lui attribue maintes différentes sensibilités, besoins, conditions. Je ne suis jamais plus... entre guillemets, moi-même, dans l'individualité et dans cette identification corporelle, quand je suis attaqué par une autre personne ou quand je suis attaqué par une maladie. Ça, c'est peut-être les moments, les deux moments les plus puissants dans l'existence, quand je me sens vraiment ce corps agressé par les paroles d'un autre, les actes d'un autre, une trahison quelconque, ou par pour mon machine à café, quand il ne me fait pas mon café vraiment, qu'il me faut absolument le matin avant de partir au travail. Si je n'ai pas mon café, la façon que j'aime bien, ou qui est comme ça? Non, personne n'est comme ça. Ah, je vois un doigt. Et écoutez, si c'est pas un café, c'est ma tisane, c'est ma tisane à la menthe, ou si ce n'est pas ma nourriture bio, je ne sais pas quoi, c'est je me sens agressé si je n'ai pas accès aux choses qu'il me faut absolument dans cette vie pour garder mon équilibre. Mais quand même. Si la machine à café.
Si, c'est
chiant. Voilà, oui. Un exemple que j'utilise des fois, ça m'est arrivé des fois avant, et ça m'agaçait, parce que j'aimais bien aussi une bonne tasse de café. On avait les cafés filtres avant les Sensio, machin. Et des fois, si on faisait un peu vite, il y avait les filtres, des fois, ils se rabattaient. D'accord. Et il y avait aucun contact entre l'eau et le café. L'eau coulait et donc c'était très, très pisseux dans une grande bol d'eau pisseuse. Pire, c'était terrible. Voilà. Et là, vous vous pressez juste avant de partir, vous voulez votre gobelet de café, votre petite tasse de café, et ce qui vous donne vraiment envie de partir, attaquer votre journée, et voilà, pas de café. Vous n'avez pas le temps de faire le deuxième. Donc, à ce moment-là, qui n'a pas eu quand même un petit instant... Comment ?
Si en plus la voiture arrive et nous...
Ah oui, eh ben, c'était foutu pour la journée. C'est absolument foutu.
C'est toi qui fais le café.
Mais est-ce qu'il n'y a pas un petit instant quand on critique la machine à café ?
Ah, oui, d'accord.
Les choses. Maintenant, le pire encore.
C'est une marque de merde.
Qui n'a pas, à un moment ou autre, peut-être plus dans le temps passé maintenant, lancé une insulte à son ordinateur.
Il n'y a pas de H.
D'accord. ou sa voiture. D'accord. Ou la chaudière. La chaudière quand il fait froid et puis ça tombe en panne. C'est notre façon de dire quelque chose à l'extérieur de moi est en train de m'agresser. Quelque chose à l'extérieur de moi est responsable pour mon manque de ressentir le profond apaisement de la présence de Dieu dans cette maison, dans la maison de mon esprit. D'accord. Donc, je dis tout ça juste pour dire que le cours nous propose une technique pour adresser ces instants d'agression. Et c'est parce que nous remplissons nos vies de ces petits instants de sentiments dans nos journées quand nous avons l'impression que quelque chose nous est fait. Nous sommes impactés par quelque chose à l'extérieur. Nous remplissons nos journées de ces petits micro-impacts pour nous sentir de plus en plus ancrés dans ces corps. Chaque fois qu'il nous arrive un petit pépin, un petit truc, ça renforce le sentiment. Je suis ce corps. Je sens le soleil sur moi. Ça chauffe. Si je voulais, je pourrais être gêné par ça. Et je le fais parce que je sens le soleil frappe moi. J'ai l'impression d'être ce truc-là. Un exemple banal, un exemple plus aigu, c'est quand quelqu'un me lance une insulte, un mot qui était complètement injustifié au travail, qui parle de moi, quelque chose que je n'ai pas fait du tout, j'y suis impliqué dans quelque chose, je n'ai été pour rien du tout. Et voilà, le mot m'arrive et je le prends contre moi. Je ne dis pas pour un instant, c'est juste des gens confus. Je dis non, je le prends contre moi, mon amour. C'est quoi l'expression ? Mon âme.
Mon nom propre.
Voilà. Et blessé, je suis blessé. Tout ça, je fais exprès pour me sentir de plus en plus enraciné, identifié ici. Donc, pour reverser le processus, je suis obligé de mettre en question tous ces petits instants de la journée quand j'utilisais l'extérieur pour valider cette identité ici et ça c'est notamment chaque fois que je pense avoir été attaqué par quelque chose, donc j'utilise le pardon. Je pardonne la machine à café, je pardonne ma voiture, je pardonne la chaudière. Ça semble un peu bête. Et après, c'est un petit peu plus difficile quand je dois pardonner le collègue qui, par erreur, m'a impliqué dans quelque chose qui n'avait rien à voir avec moi, ou peut-être il a fait exprès, plus difficile. D'accord.
C'est plus une erreur à ce moment-là.
C'est plus une erreur, hein. C'est plus une erreur. C'est pas une erreur sur le plan superficiel. C'est une erreur sur un autre plan.
Oui, d'accord.
Mais pas sur le premier plan. Non, il voulait que je sois mal vu dans l'entreprise parce que peut-être il a sonné sur ma place. Ça arrive. Il n'y a pas de question. Plus difficile encore quand mon partenaire me trompe. Et peut-être depuis un moment, peut-être me ment depuis un moment. Donc, toutes ces choses que dans le passé, j'aurais utilisé pour renforcer mon identification avec cet être corporel et son ego. D'accord, on n'a pas encore utilisé ce mot, mais l'ego, c'est la voix de l'individualité, c'est la voix séparée, c'est c'est le nom que je donne à ma présence individualisée, à la partie de moi qui ne se sent pas rattachée et unie avec l'amour de Dieu. D'accord ?
C'est lié au corps, ça aussi ?
Oui, la maison de l'ego, c'est le corps. Il le considère sa maison. Mmh. Oui. Et ce n'est jamais suffisant pour lui. C'est pour ça qu'il l'attaque constamment, à dire « c'est jamais aussi bon ». Le jour qu'il est assez bon, le jour d'après, c'est plus bon. Aujourd'hui, ah, t'es belle, t'es beau. Le lendemain, oh, quelle gueule. Donc, nous utilisons le pardon pour commencer ce processus de remettre en question toutes ces différentes soi-disant attaques que j'ai subies dans la journée, que j'ai utilisées pour renforcer ma personne, mon individualité, ma présence, ce que le terme le cours utilise, c'est particularité. En anglais, c'est spécialisme, on disait specialness, mais en français, c'est particularité. Ce qui me rend particulier, différent des autres. Pour l'ego, l'objectif, c'est toujours de me rendre différent des autres, de garder intact mon sens d'être séparé et différent des autres. Nous ne serons jamais tous pareils au niveau de la forme. Tu vas toujours t'appeler par ton prénom, tu as ton histoire, tu as tes expériences et moi. C'est l'ego qui donne une signification à ça, au-delà des simples différences. Il dit que ces différences-là ne sont pas insignifiantes, mais importantes. Ça te rend meilleur que moi. Et c'est parce que moi j'ai été... Ah, si nous sommes capables juste de dire nous sommes différents, mais ces différences n'ont aucune conséquence,
en fait, ça... Le regard porté dessus qui fait que...
C'est si on regarde ces différences avec l'ego, on va toujours les juger et trouver une façon de renforcer ta différence par rapport à la mienne. Toi, tu as eu ce que tu as parce que tu as été. Tu as grandi dans une famille qui t'a gâté. Et regarde-moi. Et mes parents n'ont jamais se soucié de moi et je suis défavorisé. Ou au contraire, il y a toujours une différence. Toujours, moi, je viens d'une meilleure famille, c'est pour ça que tu ne seras jamais aussi bonne que moi. Ou je viens d'une bonne famille, mais regarde, j'ai tout foutu en l'air. Il y a toujours une tas d'histoires. L'idée, c'est toujours de nous différencier, de faire une histoire différente pour chacun, au lieu de voir ce qui nous unifie sur un niveau plus profond. Et donc, le pardon inverse tout ce processus-là, fait exactement le chemin inverse, pour trouver qu'il n'y a pas eu de vraie agression, parce que l'amour de Dieu est toujours intact en moi, et qu'il n'y a pas une vraie différence en nous. Toi, tu contiens l'esprit fou, je contiens l'esprit fou, Toi, tu contiens l'esprit juste, je contiens l'esprit juste. Nous sommes exactement pareils. Tu es capable de faire des erreurs et des bêtises dans l'esprit fou, qui ne sont que les erreurs et des bêtises, qui ne sont pas les péchés et les crimes. Et moi aussi, je suis capable de faire les mêmes erreurs, les mêmes bêtises, les mêmes erreurs, qui ne sont pas des crimes non plus, qui ne sont pas des péchés. Et tu as aussi un magnifique esprit juste qui est capable de sortir de toute cette marasme de confusion et de méchanceté qui est l'esprit fou et l'individualité, de t'élever vers cet endroit pur où tu me vois pareil avec toi, tu m'aimes avec le profond amour d'un frère, d'une sœur, c'est le même amour que tu as pour toi-même, pour ton père et pour ton grand frère. Et c'est comme ça que nous commençons ce processus de désidentification avec le corps, c'est-à-dire de basculer vers l'esprit encore et encore et encore, à cet endroit pur d'innocence sauvegardée, de tranquillité qui est toujours là, mais qui est en dehors du corps. Au fur et à mesure, nous désensibilisons. J'ai presque. C'est pas bien cette lumière, je postillonne, j'ai l'impression de postillonner tout le temps. C'est la lumière qui le fait. C'est pas joli. C'est la faute à la lumière. Ouais. Bah, je vais me lever là maintenant en fait. C'est bon. Oui. Par contre, je pense que je vais réclamer une verre d'eau, s'il te plaît, si tu peux. Qui veut de l'eau ou quelque chose? Je ne sais même pas. On peut même prendre quelques minutes parce que... Hein? On peut prendre une pause? Oui, on fait une petite pause.